Kelen tontot.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Melode, votre émission métal qui chaque semaine, eh bien, vous propose un petit tour d'horizon des sorties du moment. Alors, un 4 octobre pas extrêmement riche en sorties d'albums. J'en ai quand même sélectionné deux, et puis je reviendrai sur un album paru la semaine dernière qui était, elle, beaucoup plus riche. Et puis aujourd'hui, je vais vous proposer une interview, et exceptionnellement, eh bien, ce sera une interview qui vous parlera de BD. Certainement, vous connaissez la BD Welcome to Hellfest, ou vous ne la connaissez pas si vous n'avez pas de chance. En tout cas, j'en ai déjà parlé dans cette émission de cette bande dessinée qui vous propose un peu bien de vivre sous forme de BD les éditions du Hellfest. Et bien, tout à l'heure, je vous proposerai une interview d'un des deux auteurs, puisque c'est un garçon et une fille. Ce sera Sophie Van Kellen qui sera avec nous pour nous la présenter, cette BD Welcome to Hellfest, qui va bientôt ressortir dans une version intégrale, mais intégrale plus avec du bonus, puisque elle est devenue très très difficile à trouver, notamment le tome 1 et 3 qui sont épuisés. Donc voilà, on vous parlera de tout ça tout à l'heure, ce sera en milieu d'émission. Ça me fait plaisir de changer un petit peu et exceptionnellement, bah voilà, de vous présenter de la BD. Je vous avoue que l'exercice a pas été extrêmement facile parce que je suis pas très calé en la matière, mais bon, c'était un défi vraiment très très intéressant et ça m'a donné envie peut-être de le réitérer à l'avenir. En ce qui concerne la musique, eh bien aujourd'hui on aura des styles de métal assez variés. On aura du hard rock, du heavy, on aura du folk metal, on aura un petit peu de metal prog aussi en toute fin d'émission. Ce sera dans la rubrique Sortez Cover. Et pour l'heure, eh bien, je vous propose de débuter les hostilités avec la sortie principale de ce 4 octobre. C'est le nouvel album de The Darkness. Et cet album s'appelle Easter is Cancelled, ce qu'on pourrait traduire par Pâques est annulée. Alors, quelques mots sur The Darkness. C'est un groupe qui est originaire de la ville de Lowestoft. C'est dans la région du Suffolk, en Angleterre. Il est créé en 2000 par les frères Hawkins. On a Justin qui est au chant à la guitare et Dan qui est à la guitare aussi. Et puis, ils ont avec eux deux acolytes, Frankie Poulaine à la basse et puis Ed Graham à la batterie. Ed Graham, qui est le seul membre fondateur à plus faire partie du groupe. Et depuis 2015, c'est Rufus Tiger Taylor qui occupe le poste de batteur. Et Rufus Tiger Taylor, eh bien, ça n'est autre que le fils de Roger Taylor, le batteur de Queen. Pour ce qui est du style de The Darkness, c'est un mélange de rock, de hard rock, de glam metal. C'est des gens qui ont été biberonnés au son de, bah justement, de Queen, d'ACDC, de Kiss ou encore de Slade. Et à l'époque, les jeunes musiciens qu'ils sont et qui désirent former The Darkness, eh bien, sont très admiratifs de toute la démesure de cette scène hard rock, glam des décennies 70 et 80. Et ils vont se donner pour but, eh bien, de recréer cette époque un petit peu magique en allant jusqu'à adopter le look de leurs idoles, dont les tenues scéniques étaient pour le moins extravagantes. Alors d'ailleurs, la personnalité pour le moins extravertie du chanteur Justin Hawkins ainsi que ses talents scéniques vont être un sérieux atout pour le groupe, dont les apparitions tarderont pas à faire très grand bruit. Alors, The Darkness, c'est un groupe qui arrive à être à l'extrême limite de la parodie, tout en restant musicalement crédible, du moins à l'époque de son premier album, qui fait sensation lors de sa sortie en 2003. Ce premier album, c'est Permission to Land, qui va se retrouver rapidement numéro 1 des ventes en Angleterre, et dont le single I Believe in a Thing Called Love va devenir eh bien ce hit mondial que vous connaissez tous, qu'on entend d'ailleurs régulièrement tourner sur Bike FM par exemple. Une folie pour The Darkness qui va atteindre son paroxysme en 2004 lorsque le groupe va recevoir 3 Brit Awards et puis 2 Kerrang Awards. Alors ça va se gâter un petit peu pour l'album suivant, One Way Ticket to Hell and Back en 2005. Là, on va dire que The Darkness pousse peut-être les limites de la parodie un petit peu trop loin, et malgré un disque d'or quand même en Angleterre, et ben ce deuxième album, il aura un succès beaucoup moins retentissant, et en plus de ce succès en demi-teinte, et bien le groupe doit également subir les addictions du chanteur Justin Hawkins, qui va finalement rentrer en cure de désintoxication en 2006, et donc provoquer la séparation du groupe qui va disparaître jusqu'en 2012, date de sa reformation officielle et date de la sortie de l'album Hot Cakes, sur lequel on retrouve eh bien enfin toute la verve et la démesure des Britanniques, qu'ont ensuite enchaîné avec Last of Our Kind en 2015, leur album le plus heavy jusqu'à présent, et puis il y avait eu Pinewood Smile en 2017, que j'avais trouvé plutôt réussi, j'avais bien aimé. Mais aujourd'hui, c'est un tout nouveau chapitre qui s'ouvre pour nos Darkness, qui sont lancés dans un projet des plus ambitieux, puisqu'ils sortent un concept album doublé d'un mini opéra rock, intitulé, comme je vous le disais tout à l'heure, Easter is Cancelled, Pâques est annulé. Alors que les amateurs de d'œufs en chocolat se rassurent, hein, pour de vrai, Pâques est pas annulé, c'est juste une blague de plus de Hawkins et sa bande, qui ont rien perdu décidément de leur humour légendaire. Et si vous désirez connaître le pitch de ce mini-opéra, eh bien le voici justement à travers les mots du chanteur. J'ouvre les guillemets. Nous vivons une époque sombre, alors que les clowns assoiffés de pouvoir jettent une ombre de désespoir sur cette terre. Notre peuple se recroqueville dans des taudis. Les enfants ne dansent pas et les oiseaux se taisent. L'espoir est brisé. Où sont donc les héros dont ce monde a besoin? Nous sommes The Darkness et nous vous apportons la lumière. Voilà. Et bien donc, un peu de lumière en voici avec l'excellent titre Rock'n'Roll Deserve to Dive, un morceau grandiloquent et épique à la croisée entre hard rock et pop, c'est très années 80, c'est un morceau que Queen n'aurait certainement pas renié à cette époque-là. Tout de suite, voici The Darkness.
Dressed up in the Emperor's old clothes, and I'm pulling at a thread. Naked with your empty heart exposed, you will wish that you were dead. You fooled us all, poor buckless band. When the verdict is returned, you surely hang. Rock and roll, your time has finally come. I am afraid you must die.
I'm afraid you must die.
Rock and roll, your time has finally come. I am afraid you must die.
I'm afraid you must die.
judgment is passed, tied to colors, to a sinking galleon's mast. Rock and roll, your time has finally come. Now I'm afraid you must die. Rock and roll, your time has finally come.
The Darkness à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load avec le titre Rock and Roll Deserve to Die, un extrait de Easter is Cancelled, nouvel album du groupe qui est à la fois un mini opéra rock et à la fois donc un concept album, hein, puisque un opéra rock concept album, c'est voilà deux choses qui vont ensemble. C'est moi j'adore The Darkness, donc voilà, c'est peut-être pas très objectif, mais je vous le conseille cet album. Pâques est annulé. Du moins, dans ce nouvel opus des Darkness, ça sort aujourd'hui. Deuxième sortie du jour, alors là c'est un live qui nous arrive, mais alors un gros live qui va pouvoir contenter les plus gourmands, c'est Halloween qui sort aujourd'hui, United Alive. Alors Halloween, bien sûr, c'est un groupe allemand, un groupe qui existe depuis 1984, rendez-vous compte, ils sont originaires de Hambourg. Le groupe est créé autour du chanteur-guitariste Kai Hansen, du guitariste Michael Wekas, du bassiste Markus Grosskopf, qui sont tous les trois présents désormais à ce jour. Et puis à l'époque, il y a aussi le batteur Ingo Schwichtenberg, dont j'ai dû écorcher le nom, je m'en excuse. C'est un groupe de power metal qui va contribuer à l'invention du speed metal. Alors ils sortent un premier maxi éponyme en 85 et puis c'est un premier album qui sort, c'est Walls of Jericho, dont l'énergie est insufflée par les guitares rythmiques et les solos à la fois rapides et mélodiques vont justement poser les bases de ce nouveau genre de heavy metal qu'on va baptiser le speed metal. Mais devant le travail pharaonique qu'elles vont demander, ces parties de guitare, il va devenir extrêmement difficile à Kai Hansen de cumuler le rôle de chanteur et de guitariste. Donc Halloween va recruter Michael Kiske, qui va occuper le poste de chanteur. On va le découvrir sur Keeper of the Seven Keys Part 1 et Part 2. Un ambitieux concept album en deux volets qui sortent respectivement en 87 et en 88. Deux albums désormais cultes qui vont marquer d'ailleurs le début du succès pour Halloween, qui va alors signer chez la major EMI. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, tout est pas si rose pour nos Allemands, puisque à cette époque-là, en plus de subir un procès intenté par leur ancien label, ils vont connaître des tensions de plus en plus vives avec Kay Hansen, qui va finalement quitter le groupe en 89 pour aller fonder Gamma Ray. C'est donc dans la douleur que sera enfanté Pink Bubbles Go Ape en 91, enregistré avec le nouveau guitariste Roland Grappo. Alors le disque, c'est loin d'être une réussite, il est descendu en flammes et l'ambiance épouvantable au sein d'Halloween va aboutir au départ du chanteur Michael Kiske, mais aussi du batteur Ingo Schwitzenberg, qui vont être remplacés respectivement par Andy Deris et Yuli Kush. Grâce à 109, Halloween va repartir sur des bases plutôt saines, et Master of the Rings en 94 va sonner un petit peu comme l'album de la résurrection pour le groupe, qui revient aux sources du speed metal mélodique qu'avait fait sa réputation. Alors depuis, malgré une discographie qui est certes parfois un peu inégale, et puis un line-up aussi un petit peu instable, Halloween connaît une carrière plutôt prospère, et fait quand même aujourd'hui office de référence pour de nombreuses jeunes formations heavy metal. Son dernier album en date, c'est My God Given Right en 2015, et en attendant un nouvel album studio qui se profile, hein, ça on commence à en entendre parler, et bien le combo qui a récupéré en 2016 ses deux membres historiques, Kay Hansen et Michael Kiske, s'éclate sur scène. Non content d'avoir retourné le monde entier avec cette équipe réunie, Halloween a donc décidé d'offrir à ses fans un souvenir de cette tournée dantesque avec non pas un disque mais un coffret, c'est ce fameux United Alive qui est disponible depuis aujourd'hui, et il est disponible dans 6 versions différentes, de la plus simple à la plus collector, et croyez-moi, si vous aimez Halloween, vous allez pouvoir vous gaver avec pas moins de 24 chansons pour près de 3 heures de musique, ainsi que de nombreux bonus sur les éditions DVD et Blu-ray. Alors des chansons enregistrées au Wacken en 2018 et puis à Sao Paulo, des interviews du groupe, un documentaire, et puis j'en passe, hein, y a beaucoup de bonus, je vais pas tout vous citer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que United Alive, c'est la célébration des plus grands succès d'Halloween depuis 3 décennies. C'est enregistré en son Surround Premium 5.1, alors ça c'est ça rigole pas, et justement on va écouter un classique du répertoire d'Halloween avec le fameux titre Halloween. C'est un extrait à l'origine de Keeper of the Seven Keys Part 1, et là c'est en version live, extraite donc du coffret United Alive. Voici tout de suite Halloween sur Mac FM. le groupe et Halloween, le titre. Alors du moins on en a écouté une partie, hein, parce que je vous cache pas que le morceau dure un petit peu plus de 13 minutes, donc bah, c'était pas possible de le diffuser en entier. C'est toujours un petit peu frustrant de devoir couper les morceaux, mais ça sort aujourd'hui, donc voilà, je vous invite après l'émission à aller découvrir tout ça en entier. Je vous rappelle, le nom du live, c'est United Alive, et je rappelle que c'est plus de 3 heures de musique et puis de la vidéo aussi. Un très très joli coffret que vous pourrez éventuellement rajouter sur votre liste au Père Noël. Pourquoi pas, ça peut être un joli cadeau. Et là on était, avant de parler de Noël, là, on était sur Halloween, sur Halloween. Halloween approche, nous sommes au mois d'octobre, ça y est. Alors c'est qu'à la fin du mois, mais on sent quand même que ça vient, puisque après le groupe Halloween, une nouvelle référence à la célèbre fête païenne de cette fin octobre, avec le nouvel album de Wednesday 13, qui peut lui aussi rentrer dans vos playlists pour fêter Halloween, que ce soit n'importe lequel de ses albums. Et donc le 27 septembre, il a sorti son nouvel opus qui s'appelle Necrophase. Alors, qui est Wednesday 13? C'est en fait le projet solo de l'artiste du même nom, enfin du moins c'est son pseudonyme, puisque son véritable patronyme c'est Joseph Poole. Ce projet solo, donc, il a débuté en 2004, mais Joseph Poole, il est né en 1976 en Caroline du Nord, et le jeune homme est issu d'une famille très croyante. Il va donc très régulièrement à l'église. C'est un enfant calme et sans histoire. Alors, du moins jusqu'à ce qu'il devienne adolescent, puisque là, il va devenir rebelle, il va devenir fan de cinéma d'épouvante et de heavy metal. Et dans les années 90, eh bien, Joseph Poole, il va devenir Wednesday 13, en référence à la famille Adams, et il va débuter sa carrière en tant que chanteur et bassiste au sein de différentes formations, alors parmi lesquelles par exemple Maniac Spider Trash, il y a eu aussi Frankenstein Drag Queens from Planet 13, qui était un groupe d'horror punk, mais c'est en intégrant les Murder Dolls, la formation californienne créée en 2002 par Joey Jordison, l'ex-batteur de Slipknot, que Wednesday 13 va se faire connaître, même si en fait Murder Dolls en tout, ils vont sortir que 2 albums. Il y a eu leur premier Beyond the Valley of the Murder Dolls en 2002 et puis Women and Children Last en 2010. Mais c'est bien sûr la carrière solo de Wednesday 13 qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, lui, il est dans le milieu shock rock. Le shock rock, c'est pour rappel un mouvement qui a été popularisé à la fin des années 60, début des années 70, notamment par Alice Cooper. Il y a eu aussi Kiss, il y a eu aussi Twisted Sister, et je pourrais vous en citer une longue liste. Et le but du shock rock, eh bien, à l'époque, c'était de provoquer et de choquer le public. Et c'est un peu dans cette droite lignée que s'inscrit Wednesday 13, dont la musique est un mélange de hard rock, de glam metal et d'horror punk. Le premier album estampillé Wednesday 13, il paraît en 2005, c'est Transylvania 90210 Songs of Death, Dying and the Dead. Et à travers ce premier opus, eh bien, il nous plonge dans l'univers fascinant du cinéma d'horreur, une thématique qu'on va retrouver à travers toute la discographie du chanteur. Discographie qui compte à ce jour 8 albums studio, parmi lesquels j'aurais envie de vous conseiller plus particulièrement donc bah, le premier, mais aussi le deuxième, Funk Bang, qui est paru en 2006, et l'avant-dernier, Condolences en 2017, qui était l'album le plus métal de l'artiste jusqu'à ce moment-là. Et c'était, moi j'ai beaucoup aimé cet album, hein, donc je ne peux que vous le conseiller. Mais notre cher mercredi, il a décidé d'enfoncer un bon coup le clou avec Necrophase, qui est paru donc il y a une semaine. Un disque que le chanteur présente lui-même et à juste titre comme étant son album le plus abouti. Alors ce 8e album, il est à la fois incisif, puissant, méchant et jouissif. Pour ce nouveau chapitre encore très largement inspiré par des films fantastiques et horrifiques, alors plus spécifiquement ceux des années 80, Wednesday 13, il s'est entouré de quelques invités prestigieux, puisqu'on y retrouve bah, Alice Cooper, le roi du shock rock. On retrouve aussi Roy Mayorga de Stone Sour, Christina Scabbia de Lacuna Coil, Alexi Laiho de Children of Bodom, et puis Jeff Clayton de Anticine. On notera que l'album se conclut par une reprise du célèbre Animal I Fuck Like Beast du groupe Wasp. Wasp, c'est un autre emblème du shock rock, et le titre qui est repris ici lors de sa sortie en 84, il avait fait scandale aux États-Unis. On l'écoutera certainement d'ailleurs cette reprise d'ici peu dans la rubrique Sortez Cover. Attendez-vous à un de ces vendredis à la retrouver. Mais pour l'instant, on va écouter une compo originale de ce nouvel album Necrophase avec le titre Zodiac, qui fait référence au nom du même tueur, mais dont, musicalement parlant, le début devrait quand même pas mal ravir les fans du cinéma de John Carpenter. Voici Wednesday 13 avec Zodiac.
Psychotic killer has already murdered five. Search goes on in San Francisco for the man known as the Zodiac Killer.
Zodiac à l'instant de Wednesday 13 sur Back FM dans l'émission Check Me Load. Wednesday 13 qui est certainement le plus digne successeur d'Alice Cooper. Ça pourrait être aussi le petit frère de Marilyn Manson. Il s'inscrit vraiment dans toute cette lignée du grand shock rock des années 70 à maintenant. Et l'album s'appelle Necrophase et c'est paru il y a une semaine. Voilà pour Wednesday 13. Donc album à découvrir si vous aimez cet univers de de l'horreur punk, du hard rock, et si vous aimez aussi les films d'horreur, moi j'en suis très très fan, donc voilà, ça me parle pas mal tout ça. Il est l'heure de retrouver notre invité du jour, et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, hein, comme je lisais tout à l'heure, c'est pas un disque qu'on va vous présenter, c'est un album de BD consacré au plus grand festival métal de France, le Hellfest. Ce projet de BD qui a été imaginé par la journaliste Sophie Van Kellen et le dessinateur Johan Guyot, il voit le jour en 2012, ça s'appelle Welcome to Hellfest, et les trois tomes qui sont déjà parus sont un tel succès que les volumes 1 et 3 eh bien, sont aujourd'hui totalement épuisé. Si vous en trouvez sur internet, c'est à des prix mais absolument exorbitants. Alors voilà pourquoi les auteurs nous proposent aujourd'hui une réédition de ces trois tomes dans une version intégrale augmentée de plus de... une version intégrale augmentée qui fera plus de 300 pages à l'arrivée. Donc avec, bien sûr, comme je vous disais, les trois volumes de la série, mais environ 40 pages de bonus que Sophie, d'ailleurs, va nous décrire très très bien dans l'interview. Alors que vous soyez métalleux ou pas, nul doute que Welcome to Hellfest saura vous divertir et puis saura vous cultiver aussi sur l'univers du métal, parce que entre les gags, les péripéties et les illustrations, eh bien vous trouverez également des petites chroniques, des interviews, c'est très bien fait, c'est très très amusant, et perso moi je me suis régalé en lisant ces trois tomes. C'est donc avec un très très grand plaisir que j'ai interviewé en début de semaine Sophie Van Kellen, qui nous a donc présenté ce projet de réédition en version intégrale, et puis aussi la campagne de financement participatif qui a été lancée afin de fabriquer ce très bel objet de façon à ce qu'il arrive d'ici Noël. Donc voici l'interview de Sophie Van Kellen qui a été réalisée lundi dernier et que je vous propose tout de suite dans l'émission Check Milode. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, donc Sophie, actuellement, vous êtes en train de préparer une édition limitée de la bande dessinée Welcome to Hellfest.
C'est pas vraiment une édition limitée, c'est une intégrale. Hein.
D'accord.
Voilà, c'est une intégrale augmentée. En fait, nous avons sorti trois volumes de la série Welcome to Hellfest, donc depuis 2012. Le volume 1 et le volume 3 sont épuisés. Le volume 1, d'ailleurs, est épuisé depuis un petit bout de temps maintenant. Donc, nous avons décidé de sortir une intégrale déjà pour que les lecteurs qui n'ont pas pu avoir le tome 1 et le tome 3 puissent lire ces pages, et ensuite pour remettre un petit peu tout au format et faire un beau gros bouquin. En fait, notre but, c'est de faire un beau livre, ce qu'on appelle dans le milieu de l'édition un beau livre, c'est-à-dire un gros livre cartonné, voilà, que tu peux garder, feuilleter, offrir, et là qui résumera 8 ans de Hellfest.
8 ans, c'est énorme.
Voilà, il y aura les six années dont on parle dans les trois premiers volumes. Plus des bonus, il va y avoir 40 pages de bonus où on va se pencher un petit peu, bon évidemment moins en détail que sur les trois premiers tomes, mais
ouais,
sur les années 2018 et 2019. Plus un cahier graphique avec des illustrations de Johan qu'on n'avait pas pu utiliser dans les autres livres.
D'accord. Alors c'est vrai que les trois premiers volumes, ça a été un carton mais monumental, puisque maintenant ils sont pour ainsi dire introuvables. Hein.
Bah oui, c'est vrai qu'on a été très très surpris parce qu'on s'attendait à rien en faisant le premier. On n'a pas vraiment ciblé. On s'est pas dit on va le faire pour les fans du Hellfest, on va le faire que pour les métalleux. On avait juste envie de raconter notre Hellfest, de faire un peu dans le concept de la BD reportage, du carnet de voyage. Voilà, raconter nos aventures de métalleux et de journalistes, et on savait pas ce que ça allait donner. Et ça a été une très très belle surprise.
Et c'est toi en fait hein, qui en a eu l'idée au départ, je crois.
Oui, mais en fait à cette époque-là, en 2012, je travaillais encore pour le magazine Abus Dangereux, pour qui je faisais des live reports du Hellfest depuis 3 ans. Avec des photos. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, bon c'est sympa d'écrire des pavés de 4 pages et prendre des photos, mais comme je travaillais aussi dans la bande dessinée, enfin, je suis journaliste BD de métier, je me suis dit, ça serait bien de faire un carnet de voyage. Et du coup, j'ai appelé un de mes meilleurs amis, Johan, qui est amateur de métal et dessinateur de BD.
Ça tombe bien.
Et on s'est lancé là-dedans. Et ça a vraiment collé parce que on a deux points de vue très différents. Moi, je fais des festivals depuis que je suis ado. Lui, jamais. Il aime pas la foule. Il a une énorme collection de disques de métal et une culture vraiment très très ancrée, mais il ne traîne pas, on va dire, dans les bars métal, il n'est pas dans la scène. En
fait. D'accord, lui, il préfère écouter chez lui tout seul, tranquille.
Voilà. Exactement.
Et ça n'a pas été trop dur pour lui de se retrouver dans le Hellfest, qui est un endroit gigantesque avec du monde partout.
Ben, la première année, il a été un peu déconcerté, puis il a trouvé ses marques. Le fait qu'on dorme ailleurs qu'au camping, on s'est ménagé des petites zones de calme pour pouvoir travailler, puis pour qu'il puisse un petit peu souffler. Donc ça l'a fait. Il s'y est habitué, et maintenant, il attend avec impatience chaque nouvelle édition.
Alors, donc, tu l'as dit, hein, vous êtes amateur de musique métal, j'imagine.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur votre culture musicale? Comment est-ce que vous avez découvert le métal, l'un et l'autre? C'est quoi vos groupes préférés?
Alors, Johan, je écoute du métal depuis très longtemps. Il me semble que c'est grâce à son père.
D'accord.
Son père est revendeur de disques de collection, en fait, de disques un petit peu rares. Voilà, il fait les salons, les conventions du disque. Donc, je pense que c'est grâce à son père, ses influences. Alors, lui, au début, il a découvert Motorhead. Après, il a découvert Maiden. Et après, il a découvert Venom, qui restait son maître étalon du métal.
D'accord. Donc, plutôt métal extrême, quoi.
Plutôt métal extrême, il aime bien aussi le métal un peu crust punk métal.
Ouais.
Et il aime les trucs un peu crades, en fait. Il aime, voilà.
D'accord.
À côté de ça, il écoute aussi pas mal de vieux psyché, parce que c'est principalement ce que vend son père, donc il en écoute aussi. Il a aussi une belle culture là-dedans.
D'accord.
Voilà.
Et pour ce qui est de ton cas?
Moi, je suis plutôt... moi, à la base, je suis plutôt rock 70, je suis plutôt classique rock.
Ouais.
Hard, heavy. Un peu de stoner et de doom, mais moi justement je suis pas du tout branchée métal extrême, même si j'écoute quand même un peu de Pagan ou des trucs un peu de trad à la Wardruna, Heilung, des trucs comme ça. Mais moi je suis plus, on va dire 70s et hard heavy.
Donc c'est bien en fait, puisque quand vous vous rendez sur le Hellfest, vous avez pas forcément les mêmes envies, les mêmes goûts, et il faut faire un choix, un compromis. Donc c'est ce qui donne aussi toute cette richesse et cette variété.
On est vraiment complémentaires, ouais.
Ouais.
D'ailleurs on s'est amusé deux trois fois. Johan nous a mis en scène en train de se disputer à propos d'un groupe.
Oui.
Que moi je trouve bien, que lui trouve nul. Voilà, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur les groupes, et c'est ça qui est bien comme ça. On a une vision plus large du festival.
Et puis c'est souvent ce qui se passe aussi quand on va à un festival avec ses potes, quoi. On n'a pas forcément envie de voir les mêmes groupes, de voir les mêmes choses, et puis on n'est pas forcément d'accord sur ce qui nous a plu ou pas, quoi.
Mais tout à fait.
Et en ce qui concerne la BD, c'est quoi vos influences?
Alors, en ce qui concerne Johan, c'est vraiment la BD des années 80 en noir et blanc, Vue Humain, Razer, tout ça.
D'accord.
Margerin, Franck Margerin aussi.
Ouais.
Très, très très branché Margerin. Donc, tout ce qui était dans Pilote, Harakiri, c'est ça, la BD un peu humoristique et rock'n'roll
qu'on retrouve
des années 80.
Qu'on retrouve assez quand même dans son trait de crayon.
Ah mais complètement, oui, il ne peut pas nier ses influences. Voilà. En ce qui me concerne, moi c'est plus, alors moi j'ai vraiment deux influences principales, c'est la science-fiction des années 80, particulièrement Druillet.
D'accord.
Druillet ou tout ce qui est Jodorowsky, voilà, la science-fiction un peu mystique des années 80, et aussi tout ce qui est BD reportage.
D'accord. Donc pareil.
La BD reportage, que ça soit économique, politique, les récits de guerre, les autobiographies, ce qui concerne les minorités, etc. Enfin, en tant que journaliste, je suis assez spécialisée là-dedans.
Et il y a un petit côté aussi dessin de presse, je trouve, des fois dans Welcome to Hellfest.
Oui, parce que Johan fait aussi du dessin de presse.
D'accord.
Johan fait aussi du dessin de presse, et voilà. Donc, il voulait en fait qu'il y ait plusieurs niveaux de fignolage. Donc, ça va du croquis fait sur place, au truc un peu dessin de presse, qui est un tout petit peu plus travaillé, mais pas trop, à la grande illus, qui est faite au pinceau, mais vraiment d'un seul trait, sans crayonné au préalable. Après, à l'illustration très travaillée, avec plus des dégradés, des lavis, etc.
Et est-ce que on retrouve des dessins qui sont réalisés sur place pendant le festival?
Oui, alors il y en a certains, principalement des petits croquis, parce que c'est carrément impossible de travailler au pinceau sur le Hellfest.
Bien sûr.
Donc il y a pas mal de petits croquis faits sur place.
Après, il
y a des choses qui sont retravaillées, bien sûr.
Il y a des petites choses, on dirait que c'est vraiment pris sur le vif, quoi. On a l'impression de voir une photo.
Il y en a certaines, ouais.
Alors donc, Welcome to Hellfest, c'est un carnet de bord humoristique du Hellfest. On l'a dit, hein, il y a des gags, des caricatures. C'est également une BD avec une dimension plus sérieuse, comme tu nous l'as également expliqué, à travers des petites interviews, des petites chroniques. C'est important pour vous deux qu'il y ait cet équilibre entre divertissement et reportage plus factuel?
Ah mais complètement. Complètement, parce qu'on est tous les deux, des grands amateurs de musique, donc on voulait quand même pouvoir parler des groupes qui nous interpellent, parler des concerts vraiment de manière plus technique, mais avec toujours de l'humour. On est toujours dans l'humour, on est toujours dans l'autodérision, on aime se représenter dans des situations un peu farfelues, et ça c'était important qu'il y ait un équilibre entre les deux, parce que c'est ce qui nous caractérise.
D'accord.
Au niveau de nos personnalités. Et c'est ce qui caractérise aussi ce qu'on lit et ce qu'on regarde, on va dire, et ce qu'on écoute à longueur de journée.
Alors, ce qui est assez drôle dans ces albums de bande dessinée, alors moi, je ne vis que pour le métal, mais j'aurais envie de l'offrir à des amis qui n'écoutent pas du tout de métal, justement, parce que ça peut être aussi une bonne façon de leur expliquer un petit peu toute cette culture, tout ce folklore, avec une bonne dose d'humour.
En tout cas, nous, on a beaucoup de lecteurs non métalleux. Je suis très surprise sur les festivals, surtout les festivals de bande dessinée.
Ouais.
Purement bande dessinée, comme Angoulême, Saint-Malo, etc., le Saut BD à Paris, il y a beaucoup de gens non métalleux qui l'achètent, parce qu'ils feuillettent, ils trouvent ça drôle, et ils disent, tiens, comme ça au moins je saurais un petit peu à quoi ça ressemble, j'entends parler de ce truc depuis longtemps, et voilà, et on est content. On voulait pas faire une BD qui ne s'adresse vraiment qu'aux métalleux.
Ouais.
Le côté humoristique aussi permet de toucher un autre public.
Ça, faut pas que les gens aient peur en se disant, voilà, moi j'écoute pas forcément du métal, je vais pas comprendre,
voilà.
Pas du tout, quoi. Au contraire.
Pas dit, je vais m'ennuyer ou je vais pas comprendre, ou voilà, c'est hermétique. Non, on voulait parler un peu à tout le monde.
Alors, le Hellfest, vous le croquez maintenant depuis 2012.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses de l'évolution du festival? Est-ce qu'il y a une édition qui t'a le plus marqué que les autres ou pas?
Alors, honnêtement. Pour faire ma vieille conne, dont l'esprit c'était mieux avant. Moi, forcément, je préférais quand c'était un peu plus petit.
Ouais.
Tout simplement parce que les scènes étaient plus faciles d'accès.
D'accord.
Je trouve que depuis quelques années, depuis le grand agrandissement, il me semble que c'était il y a 3 ans, je sais plus, il y a 3 ou 4 ans, il y a eu un agrandissement du site et donc un agrandissement du nombre de billets, enfin une augmentation du nombre de billets vendus. Et là, on s'est retrouvé à partir de 18-19 heures, les main stages, tu peux plus y accéder. J'ai depuis 2 ans les petites scènes, Altar, Temple, Valet, etc. C'est pareil quasiment. Il y a la moitié des groupes, si t'es pas là une demi-heure avant, tu vois rien.
Ouais, c'est compliqué.
Du coup, moi, je regrette. Je regrette ce moment où tu pouvais te pointer 15 minutes avant et voir le concert. Parce que quand tu travailles, que ça soit en tant que journaliste ou nous maintenant en tant qu'exposant au market, parce que
ouais.
3 ans, on a un stand au market, tu peux pas te permettre de passer une demi-heure, une heure à attendre un groupe en fait. On a un planning qui est assez serré, donc. Donc on a juste le temps d'aller voir les groupes qui nous plaisent et depuis 2-3 ans, on voit pas grand-chose.
Donc petite pointe de regret à ce niveau-là alors.
Voilà, ouais. Moi c'est pour ça que je préférais avant parce que au niveau de la programmation, je trouve pas que la qualité est baissée, augmentée. Je trouve que ça reste constant, quoi. C'est une qualité, une richesse qui est constante, mais effectivement, il y a de gros problèmes d'accès depuis quelques années.
D'accord. Alors. Donc, revenons à votre projet, donc à cette intégrale de Welcome to Hellfest. Pour la publier, vous avez choisi de lancer une campagne de financement participatif via la plateforme Ulule. Est-ce que ça participe bien? Est-ce qu'il faut du monde?
Il faut toujours du monde parce que le truc, en fait, si on a lancé cette campagne, c'est qu'on n'a pas les fonds pour imprimer. C'est un gros bouquin de plus de 300 pages avec une couverture cartonnée. Les coûts d'impression sont assez faramineux. Même si on a vraiment un imprimeur qui fait des efforts à ce niveau-là, vraiment on peut le remercier, mais ça reste quand même un gros coût et nous on n'a absolument pas les fonds pour l'imprimer. Donc déjà sans la campagne, le livre ne pourra pas exister. Au niveau du démarrage, on est d'après notre support Ulule, on est à peu près dans les clous.
Voilà. Okay.
C'est régulier, mais il faut quand même que ça avance parce que. Voilà, parce que contrairement à d'autres structures qui font un Ulule, on va dire pour le confort, pour pouvoir avoir des options en plus, etc. Nous, on le fait vraiment pour que l'objet existe.
D'accord. Et si on participe, qu'est-ce qu'on a en contrepartie? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples?
Alors, qu'il y a à peu près 3 gros niveaux de contrepartie. T'as les contreparties, on va dire, qui vont de 0 à 15 euros, qui vont du bisou de l'équipe et ton nom dans la liste des contributeurs à la fin du livre.
Ouais.
Une caricature personnalisée, mais au format numérique pour ta photo de profil Facebook, ce genre de choses.
D'accord.
Des exhibrices dédicacés, etc. Après, il y a les contreparties. Il y a aussi les t-shirts. Soit la t-shirt, sac. Des contreparties jusqu'à 20-25 euros. Après, il y a le livre en lui-même, plus les frais de port, bien sûr. Le livre dédicacé, livré avant Noël, qui est à 38 euros. Après, on passe à des packs. Après, tu as des packs livres plus t-shirts, livres plus t-shirts plus sacs, etc. Et après, tu passes à des dessins sur commande.
Ok.
Donc là, c'est ton groupe. Tu peux avoir ton groupe préféré, enfin ton musicien préféré en couleur ou en noir et blanc, ton groupe préféré en couleur ou en noir et blanc. Tu peux avoir une planche de BD où Johan crée une histoire autour de toi, l'histoire que tu veux. Ça peut être avec, un musicien que t'aimes bien, ta sœur, ton chien.
C'est génial.
Peu importe. Voilà. Ton histoire sur mesure. jusqu'aux contreparties là, qui sont souvent davantage destinées aux professionnels, qui est la peinture d'une fresque chez toi, hein, sur le mur de, ça peut être de ton bar, de ton, voilà.
D'accord, donc ben voilà, si nos auditeurs veulent participer, rendez-vous donc sur Ulule. Il suffit de taper Welcome to Hellfest, hein, je crois, on vous trouve assez facilement. On peut passer par votre page Facebook aussi.
Exactement, par la page Facebook, par notre site éditiondublousonnoir.com, voilà.
On vous trouve très très facilement.
On est sur Instagram aussi. Voilà.
Et est-ce que vous avez déjà envisagé de réaliser une BD qui proposerait un compte-rendu d'un autre festival comme, je sais pas, par exemple le Motoculteur, le Wacken, ou est-ce que vous préférez continuer à vous consacrer au Hellfest?
Bah alors, en fait, ni l'un ni l'autre.
D'accord.
Là, ça sera la dernière.
Ah.
Ça sera le dernier opus de notre série sur le Hellfest. C'est pour ça un peu qu'on fait une intégrale, une belle intégrale augmentée, et qu'on la sort l'année des 15 ans du Hellfest.
D'accord.
C'est parce qu'on arrête la série, on pense avoir fait le tour un petit peu de l'esprit du festival, et on a du mal aussi à trouver des groupes dont on n'a pas déjà parlé, du coup.
Et oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le Hellfest, il y a quand même des groupes qui reviennent.
C'est ça. Donc on veut pas lasser le public, donc on s'arrête là. Les autres festivals, ça sera un peu le même problème. Hein.
Ouais.
Donc, on va s'arrêter là. On a d'autres projets, particulièrement des livres illustrés sur les anecdotes occultes du rock. Ça, c'est Johan avec un autre auteur.
D'accord.
Un livre illustré avec moi qui sera plus sur comment on est passé du blues au heavy. En fait, voilà l'histoire du proto-heavy. Johan a aussi un livre d'illustration sur les moments clés de l'histoire du rock en préparation. Enfin, on a moi une biographie de Led Zeppelin aussi, mais ça sera avec un autre dessinateur pour le coup. On a plein de projets.
Ah oui, ça fourmille.
Oui, voilà, ça fourmille. Donc, ça fourmille, mais le carnet de voyage de festival en lui-même, non, on s'arrête là parce qu'on a peur de. On n'a pas envie de se répéter.
D'accord, c'est très bien, il faut savoir s'arrêter.
Voilà, donc c'est la dernière occasion de.
De pouvoir suivre vos aventures au Hellfest.
Voilà, exactement.
Et est-ce que vous serez quand même présent sur l'édition 2020 pour dédicacer ou simplement
en tant que
spectateur?
Oui, on sera présent, ouais.
Ok, donc on pourra vous rencontrer là-bas.
Exactement, on sera à l'Extreme Market. Si ça ne change pas comme les trois dernières années, au fond de la tente de gauche.
Et pour conclure, c'est quoi le groupe que tu regrettes de ne pas avoir interviewé au Hellfest?
Ah, de ne pas avoir interviewé? Oh là là,
ou vu en concert, allez, pour élargir.
Vu en concert au Hellfest? C'est difficile, là. J'ai vu quasiment tous ceux que je voulais voir.
Ouais, ça c'est génial.
Je pense, ouais. Ouais. Alors interviewé, je dirais Wardruna probablement, parce que c'est un groupe à part.
Et ben, puisque c'est ça, on se quittera sur un morceau de Wardruna alors.
Génial, merci beaucoup.
Et ben merci Sophie de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous parler donc de cette intégrale de Welcome to Hellfest. On peut rappeler que les auditeurs peuvent participer à la campagne de financement sur Ulule, donc on vous trouve assez facilement, on l'a dit, Facebook, etc.
Oui.
Merci encore Sophie, à bientôt.
Merci, à très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Trudl kalla meg tunglsjö trognis öðsug jótuns el solar böl vil sin völu vörð ná fjarða svelg hímins hvaðar tröll nema
hvar skald nema það.
C'était Wardruna à l'instant avec le morceau Skald, extrait de l'album du même nom. Alors juste pour vous dire deux mots sur Wardruna, c'est un groupe norvégien hein, qui est issu de la scène de Bergen, qui a été fondé en 2003 par deux ex-membres du groupe de black metal Gorgoroth. Et jusqu'à ce jour, le groupe a sorti quatre albums. Le dernier en date justement, c'est celui-ci, c'est Skald, qui est paru en 2018. Et juste pour la petite info pop culture, on va dire... quelques morceaux de Wardruna apparaissent dans la bande sonore de la série télé Vikings. Voilà, Wardruna donc, et bien pour faire plaisir à Sophie Van Kellen qui était notre invitée qui, pour l'interview du jour et pour nous présenter la BD Welcome to Hellfest. Je vous rappelle que pour aider Sophie et Johan, et bien vous pouvez participer à la campagne de financement participatif. Oh là là, on voit que c'est la fin de l'émission là, ça commence à peiner. Sur Ulule, voilà, pour leur donner un petit coup de main, et ce serait cool parce que voilà, ça pourrait faire un très très beau cadeau pour Noël, cette BD, l'intégrale de Welcome to Hellfest. Il est temps de se dire au revoir, hein, comme vous voyez, il y a pénance, donc je vais arrêter là. Malgré tout, on va conclure avec la rubrique dont vous avez l'habitude, la rubrique Sortez Cover, qui chaque semaine, eh bien, vous présente une reprise en version métal d'un morceau qui peut être à l'origine métal ou pas du tout. Ça peut être de la polka, pourquoi pas un jour. Aujourd'hui, ben, s'il s'avère que c'est un groupe, c'est un titre métal repris par un autre groupe de métal. Alors, vous allez peut-être d'ailleurs trouver que j'exagère, mais cette semaine, j'ai choisi de vous diffuser un deuxième extrait de l'album de reprise DNA de Kajinja, le groupe de metal prog parisien qui a sorti son album vendredi dernier et dont j'avais passé un extrait la semaine dernière avec la reprise de Korn. Alors je vous avais dit hein, que j'avais hésité entre pas mal de titres et parmi les titres que j'avais envisagé, il y avait le Spit It Out, le titre culte de Slipknot. Titre avec lequel pas mal de monde a découvert à l'époque l'infernal combo masqué de Des Moines qui, je le rappelle, fait en ce moment un très très gros carton avec son nouvel album qui s'appelle We Are Not Your Kind, qui est une énorme claque, c'est un album monumental. Donc, on va écouter ce Spit It Out dans la version de Kadinja. Et tout comme la semaine dernière, du coup, on va encore faire un grand écart entre 99 et 2019, puisque Spit It Out est paru il y a tout juste 20 ans. D'abord sur le premier album éponyme de Slipknot. Ça, c'était le 29 juin 99, et puis en version single, le 4 septembre de la même année. Alors, le morceau qui mélange sample, scratch, chant rap et riff metal incisif va vite devenir un des hymnes du mouvement nu metal qui déferle tel un tsunami sur la planète rock de cette fin des années 90. Spotify et Deezer existent pas encore à l'époque, mais des milliers de CD gravés tournent dans les lecteurs portables des kits de l'époque. Slipknot vomit le mal-être et l'ennui de cette génération charnière d'un entre-deux siècles, dont l'avenir est aussi terrifiant que fascinant, et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ce morceau Spit It Out. Et puis, Spit It Out, c'est aussi ce clip devenu lui aussi culte, qui a été réalisé par Thomas Mignon, dans lequel on voit un montage entre une performance live de Slipknot, et puis un hommage du groupe au film d'horreur The Shining, le film de Kubrick inspiré du roman de Stephen King. Alors dans cette version Slipknot, on retrouve Joey Jordison dans le rôle du héros Danny Torrance, Sean Crahan et Chris Fain endossent le rôle des jumelles Grady, où on trouve aussi Corey Taylor dans le rôle de Jack Torrance, une vidéo qui a d'ailleurs été bannie par MTV pour images violentes, notamment quand Corey Taylor brise une porte avec une hache, comme dans le film finalement, ou encore la scène durant laquelle James Root attaque Corey Taylor avec une batte de baseball. C'était un sacré clip, si vous le connaissez pas, après l'émission, allez le voir, et puis je pense que les autres vont avoir envie d'aller le re-regarder. Et décidément, hein, que de bons souvenirs nous reviennent grâce à cet album DNA de Kadinja paru la semaine dernière, et grâce à cette reprise qu'on retrouve ici dans une version plus metalcore que l'original, presque deathcore, qui est d'ailleurs interprétée en featuring ici avec Aaron Matz, le chanteur de Betraying the Martyrs, qui est lui aussi en pleine actu, hein, avec l'album Rapture qui est paru en septembre. Mais je crois qu'il est temps que j'arrête de parler, il est temps de se dire au revoir, on va donc sans plus tarder, écouter Spit It Out de Slipknot, revu et corrigé par Kadinja, un titre que vous retrouverez dans l'album DNA, comme Dedication, Nostalgia et Addiction. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Je vous salue, voici tout de suite Kadinja.
Gonna make sick. You can't take when it passes the good. Power, you can burn. Put it on. Fuck me. All out of the bad. Fuck me.